Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Voix Durable, le podcast qui ouvre le chemin. Je suis Laura Guien et je suis ravie de vous accompagner dans ce podcast proposé par l'Institut de la Francophonie pour le développement durable en partenariat aujourd'hui avec la FAO. Voix Durable, c'est parti! Très chères auditrices, très chers auditeurs, en ce 17e et dernier épisode de Voix Durable, j'ai eu envie de changer les habitudes. Aujourd'hui, pas de petits sons d'introduction, mais simplement ma voix. Ma voix pour vous dire combien je suis honorée aujourd'hui d'accueillir dans ce numéro 4 femmes. 4 femmes qui s'engagent pour faire reculer la faim dans les territoires les plus touchés par ce fléau. En effet, qui d'autre que des femmes pour traiter de ce sujet qui les touche en première ligne ? Selon les derniers chiffres publiés par l'ONU, 735 millions de personnes souffriraient de la faim dans le monde. Un constat terrible à laquelle l'institution donne un visage féminin. En 2021, l'écart entre les femmes et les hommes en ce qui concerne la faim s'est encore accentué. 31,9% des femmes dans le monde étaient en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave, contre 27,6% des hommes. Nous faisons face ici à un paradoxe. Les femmes sont celles qui souffrent le plus de la faim. Pourtant, elles sont les meilleurs acteurs pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Actrices essentielles du développement rural et de l'agriculture durable, elles sont indispensables à la sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale. Face à cette incohérence, comment agir ? Comment lutter contre une crise alimentaire de plus en plus complexe ? Comment remettre les femmes au cœur de cette lutte ? Depuis le terrain, des voix s'élèvent. Et si nous arrêtions de minorer les effets des activités des femmes ? Et si nous aidions à transformer et pérenniser les activités de ces femmes qui ont toujours su, depuis la nuit des temps, nourrir tout en préservant leurs écosystèmes ? Et si l'entrepreneuriat vert, cette pratique qui veille à créer de la richesse durable en circuit court et en respectant les équilibres naturels, était le meilleur allié de la crise alimentaire pour les femmes du monde ? Pour en parler, j'ai donc ouvert mon micro à 4 spécialistes qui agissent, observent et mettent en œuvre des programmes d'entrepreneuriat vert féminin. Avec elles, nous reviendrons sur les concepts qui peuvent faire avancer la cause des femmes, tout en luttant contre la crise alimentaire et climatique. Nous reviendrons également sur quelques solutions particulières qui sont mises en œuvre notamment en Haïti et au Sénégal, où un projet d'adaptation pour la sécurité alimentaire développé par la FAO, en partenariat avec le gouvernement du Québec et l'IFDD, le projet SAGA, rencontre des résultats plus qu'encourageants. Mais pour commencer, plongeons directement dans un cas pratique. En Côte d'Ivoire, un groupement de femmes s'est lancé dans un modèle de production et d'entrepreneuriat vert. Elles produisent du biochar, un fertilisant écologique conçu à partir de déchets de l'exploitation de cacao. Un modèle qui a attiré l'attention de la professeure en relations industrielles, Yasmine Mohamed, qui vient d'obtenir une prestigieuse bourse pour étudier le modèle des entrepreneuses ivoiriennes. Je me suis entretenue avec elle sur ce sujet et sur les leçons à tirer de cette initiative innovante d'entrepreneuriat féminin. Bonjour Yasmine Mohamed.
Bonjour Laura.
Yasmine, vous enseignez à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et vous venez d'obtenir une subvention des fonds de recherche du Québec pour étudier le modèle d'affaires de femmes entrepreneuses en milieu rural en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, félicitations.
Merci Laura.
Qu'est-ce qui vous a convaincue de consacrer une étude à l'entrepreneuriat féminin dans cette région du monde ?
En fait, c'est à la suite d'un projet financé dans cette région du monde par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie de Québec que nous avons eu connaissance de cette activité de valorisation de cabosses vides de cacao par des femmes d'une coopérative du département de Bolikan dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. C'est un modèle innovant qui provoque une véritable rupture avec la perception entrepreneuriat de nécessité que l'on colle habituellement à l'entrepreneuriat féminin en milieu rural en Afrique francophone. Nous avons alors trouvé judicieux de documenter cette initiative avant d'avoir une meilleure compréhension de ce modèle et bien sûr de contribuer à construire un corpus de connaissances scientifiques sur l'entrepreneuriat féminin en milieu rural en Afrique francophone.
Alors Yasmine, intéressons-nous justement à ce modèle. Comme vous l'avez précisé, les entrepreneuses ivoiriennes que vous allez étudier se sont lancées dans la valorisation des cabosses de cacao. C'est-à-dire que ces femmes utilisent ces cabosses vides, elles valorisent ces déchets pour en faire du biochar. Pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec cette technique, pouvez-vous nous expliquer, synthétiquement, ce que c'est que le biochar et en quoi c'est une solution verte et durable ?
Donc, le bouchard qui s'apparente au charbon fossile se présente sous forme de fragments gris-noir, légers, poreux et riches en charbon. On parle de plus de 60 % de charbon. En agriculture, le bouchard est produit avec l'intention d'être appliqué au sol comme moyen d'améliorer la productivité du sol, le stockage du carbone ou aussi la filtration de l'eau du sol.
Donc, c'est une sorte de charbon durable qui stocke le carbone, c'est bien ça?
Oui, ben, elle est utilisée comme solution durable parce qu'il y a de nombreux auteurs ont évalué l'impact sur l'environnement des amendements de sol au bouchard. Donc, ils ont aussi montré que le bouchard est une option rapide et hautement durable pour la séquestration du carbone dans le sol. En plus de contribuer à la séquestration du charbon, le bouchard peut être utilisé pour gérer plus efficacement les résidus agricoles.
Quels sont les principaux obstacles auxquels sont confrontées les entrepreneuses ivoiriennes?
Écoutez, en 2007, Ouattara a réalisé une étude pertinente sur un échantillon de 500 personnes à Abidjan, Côte d'Ivoire. De cette étude ressort que les contraintes rencontrées par les femmes entrepreneurs dans un pays ouest africain tel que le Côte d'Ivoire peut se résumer en deux principales catégories, là. Les difficultés socioculturelles et les contraintes économiques. Donc, pour l'auteur, les difficultés socioculturelles sont liées à la tradition, aux coutumes et à la religion. Comme il le cite, je pourrais le paraphraser, la plupart des sociétés traditionnelles soutiennent l'idée selon laquelle les femmes sont handicapées par le manque de compétences, de courage et de charisme. De l'autre côté, concernant les contraintes économiques à l'entrepreneuriat féminin dans les pays ouest africains, le même auteur résume que si la pauvreté chez les femmes en particulier, puis il révèle que la pauvreté non seulement réduit l'accès des entrepreneurs féminins au financement bancaire, annule toute initiative privée. Là.
Oui, alors le but de votre étude est donc aussi de bien documenter ces possibles difficultés auxquelles font face les entrepreneuses ivoiriennes.
Exactement, parce que c'était reconnu, et tu sais, dans l'histoire de l'entrepreneuriat, que les hommes s'en sortent mieux que les femmes, ils ont plus accès à des financements. C'est comme on a l'idée que c'est un emploi à prédominance masculine. On trouve ça bizarre, parfois on se choque. Pourquoi une femme est entrepreneur? Parce que nous, dans nos têtes, historiquement, c'était comme un métier héréditaire parce que son père était entrepreneur, son grand-père, puis c'est un emploi à prédominance masculine. Les femmes n'ont rien à faire parce qu'elles ne sont pas capables.
Yasmine Mohamed, quels seraient vos conseils pour d'autres femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat vert, en particulier dans des régions confrontées à des défis alimentaires?
En fait, moi, je trouve que ces femmes-là en Côte d'Ivoire qui ont commencé déjà ce travail sont des femmes visionnaires. Puis pour d'autres femmes qui veulent vraiment aller dans ce sens-là, puis on les encourage de ne pas hésiter à renforcer leur capacité dans ce domaine et à changer avec d'autres femmes qui pratiquent déjà l'entrepreneuriat vert. J'aimerais leur dire que l'entrepreneuriat féminin, ça existe, puis une femme pourrait être entrepreneur. Il ne faut pas avoir peur de l'accès au financement bancaire parce que c'est parmi les obstacles à l'entrepreneuriat féminin. Et les femmes, les hommes plutôt, ont plus accès à des emprunts bancaires que les femmes. Donc, il faut foncer, il faut essayer, il faut tenter. Bien, c'est sûr qu'il y aura des déceptions au début, mais il ne faut pas vraiment lâcher le morceau. Puis c'est sûr que je leur demande de sortir de l'ombre, de sortir du secteur informel pour formaliser leur activité et se déplacer vers le secteur formel.
Enfin, Yasmine Mohamed, comment envisagez-vous l'avenir de cet entrepreneuriat durable et féminin face aux enjeux alimentaires en Côte d'Ivoire et plus largement en Afrique de l'Ouest?
Ben, sincèrement, je vois l'entrepreneuriat vert féminin un bel avenir en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Ce sont dans cette partie du monde, là, les femmes qui sont responsables de plus de 70 % de la production vivière, donc représentent un atout privilégié pour porter des solutions novatrices à la problématique de la durabilité de l'agriculture dans cette région du monde.
Merci infiniment Yasmine Mohamed d'avoir été à notre micro aujourd'hui dans Voix Durable. Encore félicitations et bonne chance pour votre étude.
Merci Laura. Et à la fin, j'aimerais vraiment remercier les fonds de recherche de Québec et l'Agence universitaire de la francophonie dans les Amériques. Et vraiment, je les remercie infiniment parce que c'est grâce à eux qu'on est en train de mener ce projet-là.
Merci à vous. Au revoir.
À bientôt.
Pour rester sur cette touche d'optimisme, je vous propose de vous intéresser à un programme qui, depuis son lancement, en 2018, a réussi à articuler lutte contre la faim, adaptation au changement climatique et entrepreneuriat féminin avec succès dans deux territoires fortement touchés par la crise alimentaire, Haïti et le Sénégal. Développé et mis en œuvre par la FAO avec le partenariat technique et financier du gouvernement du Québec, Le projet Sécurité alimentaire, une agriculture adaptée, SAGA, dont l'IFDD est également partenaire, vise à renforcer la planification de l'adaptation pour la sécurité alimentaire dans ces deux pays francophones. Awam Bodge fait partie de l'équipe qui coordonne le projet et nous sommes revenus ensemble sur les réussites et les enseignements de SAGA, alors que le projet s'apprête à rentrer dans sa deuxième phase et devrait être prochainement déployé en Côte d'Ivoire. Bonjour Awa.
Bonjour Laura.
Awa, vous êtes consultante en changement climatique pour le Bureau du changement climatique, de la biodiversité et de l'environnement et la FAO. Et vous travaillez actuellement sur le projet SAGA que j'ai présenté en introduction. Alors je rappelle à nos auditeurs que ce projet global, sécurité alimentaire, une agriculture adaptée, vise à renforcer la planification de l'adaptation pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans deux États francophones, Haïti et le Sénégal. Awa, justement, les réalités et défis climatiques diffèrent énormément entre ces deux pays, Haïti et le Sénégal. Comment cela a-t-il influencé la conception du projet SAGA dans ces deux pays?
Alors, merci beaucoup, Laura. Je suis très heureuse de participer à ce podcast. Donc, peut-être pour nos auditeurs qui sont un peu moins familiers avec le projet SAGA, SAGA, c'est un partenariat dans lequel la FAO et le gouvernement du Québec se sont associés au gouvernement d'Haïti et du Sénégal avec l'objectif de renforcer la sécurité alimentaire pour mettre en œuvre l'accord de Paris, donc sur les changements climatiques. Donc, on disait deux pays francophones, deux pays dont un était insulaire, un autre un pays d'Afrique subsaharienne, donc deux réalités très, très différentes, mais deux pays où les changements climatiques représentent une menace immédiate et sérieuse pour la sécurité alimentaire et surtout pour les moyens de subsistance des populations qui sont finalement en première ligne. Ça, c'est un peu le cœur du projet, s'adapter, comment supporter les agriculteurs pour qu'ils puissent s'adapter aux changements climatiques. C'est vraiment à ce besoin-là que le projet répondait. Donc, il a été conçu pour renforcer les capacités de planification et d'adaptation et les premiers résultats ont d'ailleurs été très concluants. On va étendre l'expérience en Côte d'Ivoire et on l'espère peut-être aussi dans d'autres pays qui se reconnaîtront dans les défis auxquels font face Sénégal et Haïti.
Alors justement, Awa, quand on pense à lancer un projet comme SAGA qui est axé sur le renforcement de la sécurité alimentaire, quels sont les éléments essentiels à considérer?
Je pense que c'est une évidence pour moi, mais avant tout, bien définir les besoins des pays, des parties prenantes qui seront bénéficiaires de ces actions-là, les solliciter activement et les impliquer tout au long du projet. Je pense que aussi, surtout dans les pays en développement, c'est important de mettre en avant des solutions à la fois donc qui répondent à plusieurs crises à la fois, donc à la crise alimentaire forcément, mais des solutions qui ont des bénéfices aussi sur la crise climatique, sur la crise de la perte de la biodiversité, la dégradation des terres, donc qui sont toutes finalement un peu interdépendantes. Et surtout dans un contexte où les ressources financières sont assez limitées, vraiment mettre en avant des solutions qui peuvent agir à différents niveaux. Et ensuite de ça, surtout renforcer la mobilisation des acteurs. Donc on parle des gouvernements, de la recherche, de la société civile, du secteur privé.
Alors justement, puisqu'on parle d'acteurs, venons-en aux actrices qui nous intéressent particulièrement dans ce numéro, les femmes. En Haïti, quel rôle jouent-elles traditionnellement dans l'agriculture et la sécurité alimentaire?
Les femmes, elles jouent un rôle essentiel. Je pense que c'est vrai pour Haïti, comme dans beaucoup d'autres pays dans le monde, où l'agriculture est une source essentielle de revenus et de moyens de subsistance. Donc les femmes en Haïti représentent près de la moitié des emplois agricoles. Et en tant que productrice, chef d'exploitation, transformatrice, commerçante, salariée, elles sont vraiment au cœur des chaînes de valeur agroalimentaires. C'est pourquoi l'égalité des sexes, vraiment l'autonomisation des femmes rurales est au cœur du travail de la FAO. Et c'est ce qu'on a aussi essayé de mettre en avant dans le projet SAGA.
Alors concrètement, comment le projet SAGA a-t-il reconnu et renforcé ce rôle des femmes?
On travaille vraiment à plusieurs niveaux, avec les gouvernements, avec la société civile, donc directement avec des associations de productrices et de producteurs, et avec la recherche. Et surtout au niveau de cette composante terrain communautaire, les initiatives, elles ont cherché vraiment à mobiliser les femmes en premier lieu. Donc, à aller les voir, les consulter, voir, définir quels étaient leurs besoins prioritaires. Et ensuite de ça, définir ensemble, là, ce qui est les actions qui seraient mises en œuvre et les accompagner tout le long. Donc, les femmes ont été vraiment un élément central.
Pourriez-vous nous donner un exemple concret de comment vous intervenez sur le terrain, de comment vous abordez la formation des femmes dans l'agroécologie et l'entrepreneuriat vert?
En Haïti, on a plusieurs initiatives qui sont déroulées à petite échelle. Donc, l'exemple dans les communes de Hinché et Maïssad, qui sont nichées au centre d'Haïti, on mène une initiative avec des groupements de producteurs et notamment des groupements de femmes qui qui offrent des services d'irrigation dans leur communauté en les soutenant, donc en donnant des formations sur la gestion intégrée de l'eau, en fournissant des équipements et des intrants pour leur permettre aussi de dérouler leurs services et en utilisant aussi ce rôle pivot qu'elles ont dans cette communauté-là pour en faire des relais de connaissances. Donc, souvent, cet accompagnement-là, il est aussi sur la production en tant que telle, le calendrier culturel, comment les productrices peuvent mieux s'adapter justement à la raréfaction des pluies ou la variabilité des pluies ou à juste la faible accessibilité de l'eau. Donc, on va aussi développer sur des pratiques agricoles qui permettent d'utiliser moins d'eau tout en promouvant la qualité du sol. Et ensuite de ça, une fois que ces formations sont terminées, eh bien, ces femmes-là deviennent aussi des facilitatrices pour démultiplier ces connaissances, oui, au sein des populations.
Alors, vous intervenez avec Saga au Sénégal et aussi en Haïti, effectivement. Quels sont les principaux obstacles à la promotion de l'éco-entrepreneuriat, notamment en Haïti, compte tenu de ces défis uniques en matière de changement climatique, de gouvernance et d'infrastructure ?
Par rapport à Haïti, je pense que c'est déjà lié à l'accès au financement et que c'est dans un contexte instable qui est très, très prononcé, d'éducation, vulnérabilité aux catastrophes naturelles. Et il y a plusieurs freins aussi au niveau institutionnel qui font que voilà, le potentiel de l'entrepreneuriat est peut-être pas atteint aujourd'hui. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que tout n'est pas gris, surtout en Haïti, en fait, parce que il y a une nécessité de trouver des emplois, de créer des emplois et des emplois durables parce que la population est là et doit survivre. Et aussi la créativité et la résilience du peuple haïtien quoi, qui vraiment, on l'a vu au fil des ans, et vraiment n'est pas entamé. Donc, je pense qu'il y a des dynamiques qui sont là, qui font encourager. Je pense qu'avec le support de l'État, des organisations internationales, de la société civile, en fait, de tout le monde, c'est possible d'avoir un avenir meilleur à travers ce type d'approche, de stratégie.
Donc, Awa, analysons à plus long terme, si vous le voulez bien. La pérennité dans ce type de projet est cruciale. Comment veillez-vous à ce que les actions initiées par Saga continuent de prospérer, même après la fin des soutiens externes, notamment en ce qui concerne les femmes ?
Déjà, prioriser ou opter pour des solutions à la fois simples, rentable et facilement transférable pendant la mise en œuvre des actions, je pense, essentielles, des solutions qui sont facilement réplicables surtout. Et par ailleurs aussi, vraiment autonomiser les agriculteurs et les agriculteurs, donc promouvoir vraiment le renforcement de capacités. Donc, de telle sorte que, une fois qu'ils ont ces outils en main, ils sont capables de tout autre défi qu'ils rencontrent, de pouvoir analyser, trouver des solutions ensemble, parce que souvent, il s'agit d'organisation, donc ce ne sera pas juste une personne, donc on s'en individuel. Et justement, je pense que aussi ces organisations de producteurs-là, elles sont vraiment essentielles quoi, pour prendre action en commun et avoir un impact dans l'ensemble de la communauté. Parce qu'en renforçant les capacités organisationnelles de ces groupements-là, de producteurs, ils vont aussi aller porter leur propre plaidoyer, leurs besoins auprès des autorités, qu'elles soient locales ou nationales, et aussi aller chercher souvent les ressources financières, matérielles, dont elles auront besoin pour mettre en œuvre leurs initiatives.
Pour finir, Awa, quels conseils précieux donneriez-vous à celles et ceux désireux de lancer des initiatives axées sur le soutien aux femmes et l'adaptation pour la sécurité alimentaire ?
Je pense que je le disais avant, mais vraiment développer des projets à partir des besoins des premières personnes concernées, c'est vraiment le point de départ le plus viable. Je pense qu'il est vraiment essentiel d'engager activement les communautés dès les premières phases du projet et aussi créer vraiment des partenariats avec tous les acteurs qui interviennent dans ces domaines, donc agriculture, dans ce cas-ci, et changement climatique, mais qui touchent aussi d'autres secteurs comme l'énergie, la biodiversité, etc. Donc, essayer aussi de favoriser au maximum l'accès aux ressources, pour avancement de capacité et vraiment essayer de former des personnes qui sont des relais dans cette communauté pour que les connaissances continuent à se démultiplier entre pairs. Et par rapport aux femmes aussi, je pense que c'est important de travailler avec les femmes, c'est important de travailler aussi avec l'ensemble de la communauté parce qu'elles sont intégrées dans un tissu social qui est là, qui existe. Et je pense que on parle du rôle des femmes, pour les femmes, du rôle des hommes aussi, pour autonomiser les femmes, très important, des autorités locales. Donc, c'est important d'avoir d'encourager ces discussions-là à l'échelle de la communauté et vraiment essayer de faire mieux comprendre le rôle fondamental que les femmes jouent dans l'agriculture, la natation, la sécurité alimentaire en général.
Je vous remercie infiniment à Awam Bodj d'avoir pris le temps d'échanger aujourd'hui avec nous dans Voix Durable. Et je renvoie tous nos auditeurs à la page du projet SAGA sur le site de la FAO, www.fao.org/inaction/saga. À bientôt.
Merci beaucoup, Laura.
Quelle forme prend la crise alimentaire aujourd'hui ? Comment aider les femmes pour faire face à cette crise de plus en plus complexe ? En quoi l'entrepreneuriat vert peut-il être une réponse appropriée, en particulier dans les pays d'Afrique francophone ? Pour faire le tour de toutes ces questions, je me suis entretenue avec Geneviève Talbot. Geneviève est chargée de programme chez l'ONG SUCO, organisation de coopération internationale basée à Montréal. Avec un accent prononcé sur l'implication des femmes, cette organisation est aussi un partenaire essentiel du projet SAGA de la FAO en Haïti et au Sénégal. Bonjour Geneviève Talbot, merci d'avoir accepté notre invitation dans Voix Durable.
Bonjour.
Geneviève, vous êtes chargée de programme chez SUCO et responsable de programmation pour le pôle Afrique de l'ONG, ainsi que spécialiste en système alimentaire viable. Alors, je précise pour nos auditeurs que SUCO intervient dans de nombreux pays, et notamment en Afrique francophone, au Bénin, Burkina Faso, Togo, Côte d'Ivoire, Haïti. Depuis votre organisation, comment analysez-vous la crise alimentaire à laquelle font face les pays les plus vulnérables?
Peut-être un peu pour expliquer comment SUCO fonctionne, là, déjà, comment on fait notre analyse. Donc, on l'a fait beaucoup, notre analyse, nous, à partir des organisations locales avec qui on travaille de près, soit dans la mise en œuvre de projets, la conception de projets, mais aussi en termes d'analyse, de contexte et de plaidoyer. Donc, nous, on va travailler, par exemple, avec des associations qui sont impliquées dans la souveraineté alimentaire, dans les enjeux liés aux droits et participations des femmes. Donc, dans le comment, je tiens à dire que l'analyse se fait pas uniquement à partir du siège à Montréal, mais bien dans des échanges, des dialogues, une lecture commune, une analyse des enjeux là, qui touchent la région concernée. Depuis le terrain, mais aussi les organisations locales basées au terrain. Parce que SUCO, on a aussi des bureaux dans nos pays d'intervention. Notre approche est vraiment de travailler en collaboration avec des organisations béninoises, sénégalaises, qui possèdent une connaissance fine et juste, je dirais, des enjeux. Puis, c'est avec elles et eux qu'on finit par élaborer là, notre compréhension des analyses. Ceci dit, une fois comment on analyse la crise alimentaire actuelle là, qui sévit en Afrique de l'Ouest puis en Haïti, j'ai quasiment envie de dire aussi de les mettre au pluriel, hein, les crises alimentaires, parce que ça varie dans les contextes, ça varie dans les populations touchées aussi. Mais nous, ce qu'on voit, c'est une multiplication des crises, la crise environnementale, les crises politiques, les crises sociales, puis que cette multiplication des crises-là a un impact différencié sur les populations. L'ensemble des populations, là, quand même, maintenant, avec l'inflation, avec ça touche vraiment tout le monde. Mais les populations marginalisées sont encore beaucoup plus touchées, puis avec des outils ou des pistes de solutions, des leviers pour se sortir des crises qui sont plus limités.
Alors Geneviève, comme je l'ai expliqué en introduction de notre échange, vous mettez en place avec SUCO des solutions pour bâtir des systèmes alimentaires viables et une plus grande résilience climatique, avec une attention particulière portée aux femmes. Sur ce sujet précis, quel lien faites-vous entre l'implication des femmes et la crise alimentaire ? Pourquoi est-il nécessaire de les impliquer dans les solutions et en quoi sont-elles des actrices de premier plan dans la lutte contre cette crise ?
Un élément qui peut peut-être être vu comme un cliché, puis je trouve qu'il faut faire attention. Mais on parle effectivement souvent de la résilience des femmes, ce qui est vrai. Puis on veut renforcer ce point-là, puis c'est parce que les femmes sont fortes et résilientes, qui sont des actrices essentielles pour le système alimentaire viable. Par contre, tu sais, je mets tout le temps des nuances, puis je trouve que encore plus maintenant, là, avec la exacerbation des crises, les femmes sont résilientes, nous sommes résilientes, mais il y a des limites. Puis il faut respecter ces limites-là, puis donc sont fortes, mais sont aussi fragiles. Puis il faut reconnaître ça, puis le travailler avec cet aspect-là. Mais pourquoi c'est nécessaire de les impliquer dans les solutions? Surtout là, quand on parle de système alimentaire viable, c'est que traditionnellement, c'est les femmes qui sont responsables de nourrir la famille, la communauté. C'est un rôle qu'elles jouent certainement dans les sociétés en Afrique francophone, en Haïti, mais je pense même chez nous au Québec, là, où les femmes sont souvent responsable de nourrir la famille. Donc, cette responsabilité-là s'accompagne avec un savoir, une expertise dans créer un système alimentaire pour arriver à accomplir cette mission-là. Puis la famille s'est élargie, là, c'est pas juste les enfants directement, mais c'est aussi toute une vision de la communauté. Donc, elles vont participer dans des jardins communautaires, les jardins créoles en Haïti. Elles vont être actives dans les bois collectifs, dans les bois de chauffe, là, pour arriver à aller chercher les bois qui vont permettre de faire fonctionner les fours pour nourrir les populations. Donc, c'est nécessaire d'impliquer les femmes dans les solutions parce qu'elles sont des actrices au cœur du système alimentaire dans les pays dans lesquels on est.
Alors, bien entendu, les réalités sont vraiment différentes selon les terrains. Qu'il s'agisse d'Haïti, où vous intervenez, je le rappelle, dans le cadre d'un projet de sécurité alimentaire avec la FAO, le projet SAGA, et d'autres pays comme le Bénin ou la Côte d'Ivoire. Néanmoins, quels ont été les plus grands défis de la mise en œuvre de cette vision, des femmes au centre des projets en particulier, dans le contexte de l'entrepreneuriat vert?
Ben, comme vous dites déjà, on part, nous, du terrain. Donc, c'est un peu par défaut hein, qu'on travaille en entrepreneuriat puis en entrepreneuriat vert avec les femmes. Ça revient avec l'économie formelle puis l'économie informelle. Puis là, encore une fois, là, vous l'avez dit, merci. C'est un peu une généralité en ce sens que, bon, ça va varier entre le Bénin et Haïti. Là, ça sera pas la même chose. Mais il demeure qu'en général, les femmes, elles sont dans l'économie informelle et que par défaut, pour arriver à subvenir à leurs besoins, c'est nécessairement l'entrepreneuriat. Donc, c'est pas nécessairement toujours un choix. T'sais, si on pense, par exemple, dans les contextes occidentaux, ben quand on devient entrepreneur, c'est parce qu'on a la fibre, on veut. C'est souvent par nécessité, alors en Afrique de l'Ouest ou et en Haïti. Donc, il y a déjà un besoin de reconnaître le fait que, dans ce cas-là, en termes de capacité, en termes de que les barrières traditionnelles, les obstacles qui sont traditionnellement la participation des femmes, la raison pour laquelle elles ne sont pas dans l'économie formelle, mais qu'elles se retrouvent surtout dans l'économie informelle, sont aussi là. Donc, l'accès à l'éducation, l'accès aux ressources, l'accès au contrôle aussi financier. Donc, oui, c'est bien beau d'avoir des fonds pour développer un entrepreneuriat vert, mais si jamais, ensuite, est-ce que ça leur permet de contrôler ces ressources-là pour décider où elles investissent par la suite dans leur famille, mais c'est pas nécessairement là. Donc, dans les plus grands défis, c'est d'arriver à travailler sur la reconnaissance sociale du rôle des femmes. Puis ça, c'est à la fois au niveau des femmes elles-mêmes, parce que souvent, elles-mêmes vont avoir malheureusement une piètre estime d'elles-mêmes. Donc, il faut travailler beaucoup cet aspect-là, tout le volet leadership, le volet prise de parole en public, assurance. Elles sont capables de gérer des entreprises, puis il faut souvent le démontrer à elles, mais aussi que ça soit reconnu dans la société où elles sont.
Donc, il y a toujours ce lieu commun, cette idée vastement répandue de la part des femmes, comme des hommes, hein, que l'entrepreneuriat féminin, ce n'est pas vraiment une activité, que les femmes ne sont pas réellement entrepreneuses.
Oui, exactement. On va diminuer ça. C'est quelque chose qu'on a toujours fait. C'est pas vraiment l'entrepreneuriat. Puis, collectivement aussi, ce que les hommes surtout vont dire, mais la société en général, c'est de dire oui, mais c'est juste un revenu d'appoint. C'est pas important, c'est pas la priorité. Alors que maintenant, dans la multiplication des crises, comme on parlait tout à l'heure, le fait que la crise économique explose, ben le rôle que les femmes ont au sein de la famille avec leurs petites entreprises, puis je mets « petites » entre guillemets, ben devient de plus en plus important, un pilier en fait pour le développement de la famille puis de la communauté en général. Donc, dans les défis, c'est ça. C'est arriver à ce qu'elles-mêmes soient confiantes, prennent conscience aussi de l'importance de leur travail, de leur entreprise, puis que ce soit aussi reconnu dans la société. Mais dans les plus grandes réussites, par exemple, tu sais, si je pense à un projet qu'on a fait avec la FAO au Sénégal, justement, sur la gestion des bois collectifs, là. Donc, c'est des forêts qui sont collectives où les femmes, c'est les femmes qui faisaient ça, puis il y avait toute la gestion des arbres, puis pour qu'on la collecte du bois de chauffe. Bien, ça a amené une meilleure gestion des ressources forestières dans un climat qui était tendu en termes de sécheresse, puis en termes d'eau. Ça amener par la suite une meilleure reconnaissance du rôle des femmes par la communauté, par les autorités traditionnelles, mais aussi la commune, sur la capacité des femmes à gérer non seulement des petites entreprises, mais aussi les ressources naturelles. Donc, ça contribue à un mouvement qui est déjà là, mais à une meilleure reconnaissance de la place et du rôle des femmes dans la gestion de la communauté. Donc, le succès va au-delà de l'entrepreneuriat vert.
Formidable. Alors, approfondissons un peu le sujet. Depuis tout à l'heure, nous parlons d'entrepreneuriat vert ou d'éco-entrepreneuriat comme solution exemplaire pour impliquer les femmes et les outiller face à la crise alimentaire. Mais qu'est-ce que c'est au juste que l'entrepreneuriat vert ? Comment vous le définissez-vous ?
Excellente question. Puis je pense qu'à SUCO, puis avec nos partenaires, et on n'a pas une solution, on n'a pas une définition toute faite de voici ce qu'est l'entrepreneuriat vert. Donc, c'est une discussion qui est en évolution. Mais la vision, je dirais, théorique ou conceptuelle de l'entrepreneuriat vert, ben c'est la vision d'un circuit, d'une économie circulaire. Donc, avec où on réutilise les déchets ou tout. C'est le cycle économique où toutes les ressources se trouvent sur place, puis le cycle économique est fermé. Ça, nous, on voit ça aussi, c'est défini par SUCO comme étant une forme d'entrepreneuriat vert parce que c'est une vision d'économie circulaire, c'est ça, et de circuit court. Donc, c'est les deux aspects qui, pour nous, quand vient le temps de théoriser, quand on travaille avec des organisations de plaidoyer, c'est comme ça qu'on va définir l'entrepreneuriat vert. Je veux juste répéter que les femmes le font déjà de façon traditionnelle sur le terrain, dû par la pauvreté. Tu veux pas avoir de pertes, tu veux maximiser tes revenus. C'est vraiment reprendre des concepts qui étaient déjà présents dans des sociétés traditionnelles qu'on remet au goût du jour puis qu'on remet aussi à une portée plus grande. Il y a eu la mécanisation, il y a eu l'industrialisation qui a changé un peu la façon de faire les chaînes de valeur, mais maintenant, on revient de plus en plus à une vision traditionnelle d'économie circulaire, de circuit court. Ce qu'on veut, ultimement, c'est que les femmes elles-mêmes puissent porter leur voix, que l'entrepreneuriat vert soit plus uniquement vu comme un moyen alternatif de développer les femmes, mais au contraire, que ça soit un modèle dominant. En fait, c'est vraiment une conception durable.
Geneviève Talbot, quels seraient les conseils que vous adresseriez aux porteuses de projets dans le domaine de l'entrepreneuriat vert et la résilience alimentaire?
Non, je ne me sens vraiment pas la meilleure personne pour donner des conseils. Je suis désolée. Peut-être ce que je peux partager, c'est ce qui a fonctionné pour les groupes avec qui on travaille, les mouvements avec qui on travaille. C'est en premier lieu arriver à construire la confiance en soi. C'est la confiance en, premièrement, on fait de l'entrepreneuriat. Les femmes font de l'entrepreneuriat déjà. Prends avoir cette reconnaissance-là dès le départ. Elles gèrent des ressources, elles gèrent des finances. Donc, améliorer la confiance et la reconnaissance des acquis qui sont déjà là. Ce qui est souvent un enjeu, je trouve, quand on travaille avec des populations adultes, c'est... Souvent, par exemple, les femmes vont nous dire « Oui, mais moi, je ne suis pas éduquée, donc j'ai pas eu accès à l'éducation, donc j'ai pas vraiment de travail, pas vraiment une profession. » Mais c'est comme s'il n'y avait pas de reconnaissance que le fait qu'elle gère un jardin, qu'elle gère une famille, qu'elle gère... Donc, valoriser puis reconnaître le savoir-faire puis l'expertise, même si ce n'est pas dans le milieu formel. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est essentiel à faire des succès de l'entrepreneuriat. Fait qu'une fois que les femmes avaient souvent gagné, je trouve, en confiance, puis aussi en disant, mais oui, c'est vrai, tu sais, ce que je fais depuis 20 ans, ben finalement, c'est de l'entrepreneuriat, puis c'est d'arriver à construire sur cette reconnaissance-là, sur cette confiance-là, pour faire rayonner par la suite la part des femmes dans la communauté en général.
Je vous remercie infiniment, Geneviève Talbot, d'avoir partagé votre expérience et vos éclairages avec nous aujourd'hui dans Voix durable. Merci encore.
Merci à vous, Laura.
Très chères auditrices, très chers auditeurs, pour cette dernière interview de ce dernier épisode de Voix durable, j'ai la très grande joie d'accueillir une invitée un peu particulière. Je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir au micro, une fois n'est pas coutume, la femme qui a accepté il y a 3 ans de produire et de réaliser ce podcast et de m'en confier les rênes, Madame Lionelle Ngossani. Bonjour Lionelle et merci d'avoir finalement accepté notre invitation.
Bonjour Laura.
Lionel, vous êtes ingénieur agroéconomiste de formation et spécialiste de programme à l'Institut de la Francophonie pour le développement durable. Vous travaillez depuis plus de 20 ans dans la conception et la mise en œuvre de programmes de développement durable et actuellement, vous travaillez sur la mise en œuvre d'un large projet ambitieux de l'IFDD intitulé « Soutien aux initiatives environnementales dans le bassin du Congo » qui vise à renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes locaux. Le programme promeut des connaissances et innovations éco-responsables pour une gestion durable des ressources tout en misant sur une agriculture intégrée. Alors Lionel, ma première question concerne bien entendu les femmes, ces femmes qui ont été bien souvent au centre des questionnements dans Voie durable. La lutte pour la résilience, notamment face à la crise alimentaire dans le cadre des programmes de développement, passe très souvent par l'implication des femmes. C'est une constante. Les programmes s'adressent souvent à elles, tentent de les impliquer au mieux, de les former, de les outiller. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait des femmes les meilleurs acteurs de développement face à la crise alimentaire, notamment en Afrique centrale ?
Laura, vous savez, de la compréhension à la mesure aussi bien qualitative que quantitative de la résilience, on trouve en permanence l'image des femmes. Des femmes qui traînent avec elles tellement de stéréotypes, de discriminations, qu'elles ont fini par constituer l'ossature même de la résilience dans toutes ces crises qui s'imbriquent les unes dans les autres. Bien que le plus souvent, elles sont invisibles, elles sont inaudibles, mais on se rend compte que la majorité des récits de trajectoire de vie des femmes nous montrent souvent comment ces femmes sont capables de supporter, de s'accommoder, de s'adapter et, s'il vous plaît, de transformer avec toute leur dignité la vie que nous menons, la pratique que nous avons de l'agriculture. C'est cette stabilité, cette flexibilité et même cette capacité d'absorption des changements qui les caractérisent, qui forgent leur résilience. Mais plus que tout, souvenons-nous des chiffres. Moi, j'aime beaucoup les chiffres parce que les chiffres sont immuables. On peut leur donner le sens qu'on veut, mais les chiffres sont très têtus. Et je voudrais dire qu'il faudrait qu'on se souvienne qu'en 2023, sur les 700 millions de personnes qui vivent en situation d'extrême pauvreté dans le monde, plus de 60% sont des pauvres. On n'a peut-être pas tort de dire que la pauvreté est féminine. Cette pauvreté est également géographique. Elle s'ancre en Afrique subsaharienne. Mais plus encore, elle est dans les zones rurales, ces zones qui donnent à manger aux populations qui s'urbanisent. L'on doit aussi et surtout avoir en esprit les statistiques sur les femmes et l'agriculture. Trois quarts des revenus de femmes proviennent d'activités agricoles. Ces femmes, elles contribuent à 80% de la production vivrière, mais en même temps, 8% des propriétaires fonciers sont des femmes. 8% dans une pratique où l'agriculture a comme facteur de production principal la terre. Et elles n'ont que 10% d'accès au financement, c'est-à-dire que quand on a donné des crédits, 10% seulement sont destinés aux femmes. Par ailleurs, du fait de leur responsabilité sociale, elles sont les premières à souffrir de toutes les privations, surtout de la faim, alors qu'elles nourrissent le monde. Pourquoi? Parce que le plus souvent, quand il y a privation, elles préfèrent d'abord donner à manger à leur famille et elles se nourrissent quand tout le monde s'est nourri. Elles subissent 11% de chances de plus pour vivre dans l'insécurité alimentaire par rapport aux hommes qui ne produisent pas comme elles. C'est pour cela que nous nous disons que ces chiffres qui nous disent avec force et sans l'ombre d'aucun doute que les femmes sont à la périphérie, certes, des facteurs de production, mais qu'elles sont indéniablement au cœur de la production alimentaire. Et pour cela, elles doivent être aussi au cœur de tous les dispositifs qui accompagnent la résolution des problèmes liés à l'agriculture.
Lionel, comment appréhendez-vous cette implication des femmes dans les projets depuis l'IFDD? Quels sont selon vous les projets porteurs, ceux qui fonctionnent et qui ont une chance de s'ancrer durablement dans le temps?
Je suis souvent très gênée quand je parle de cette question. Pourquoi? Parce que autant nous sommes convaincus que les femmes doivent être au cœur des dispositifs, autant nous faisons des efforts pour les mettre au cœur des dispositifs, mais nous nous rendons toujours compte que nous ne faisons jamais assez, que nous sommes parfois à côté de la plaque et qu'elles sont toujours en marge. Mais pourquoi? Parce que le grand problème, c'est que les problèmes qui touchent les femmes sont des problèmes tellement structurels, il faut prendre la résolution du problème dans sa globalité, et qu'aucun projet, aucun n'est capable de le faire. Parce qu'il faut transformer complètement les sociétés, qu'il faut transformer complètement les droits et même l'interprétation du droit, et qui fait en sorte que tous les programmes sont, je peux dire, démunis face à cette situation. Mais je voudrais vous dire, en plus, que quand l'IFDD conçoit ces projets, il y a des enjeux qui sont essentiels, mais pour lesquels l'Institut ne peut pas aborder la question. Notamment, je vous parlais, par exemple, de l'accès à la terre. Si on veut résoudre un problème lié aux femmes et lié à l'agriculture et qu'on mette de côté le problème d'accès à la terre, on a résolu le problème à moitié. Mais l'Institut ne peut pas, n'a pas pour mandat de travailler sur les questions foncières. Donc, l'enjeu est toujours partiel. Nous, au niveau de l'Institut, nous mettons l'accent sur le renforcement des capacités avec les limites qu'on connaît. Parce que quand on a une bonne partie de la population qui est illettrée et que vous voulez les former parfois dans une langue qu'elles ne comprennent pas parce qu'elles sont illettrées, il y a quand même des biais. On trouve parfois des palliatifs, on trouve des mécanismes tels que la discrimination positive quand elles ont les capacités de pouvoir accéder à nos programmes d'appui au développement. dont les femmes sont au cœur, mais on est quand même limité quand on aborde la question des femmes dans la conception des projets.
Alors Lionel, parmi les objectifs de votre projet dans le bassin du Congo figure la promotion des opportunités climato-économiques en faveur de l'autonomisation et de la résilience des femmes. Si l'on ramène cela à l'entrepreneuriat vert, comment ce concept est-il le meilleur allié contre la crise alimentaire actuelle? À quelles conditions l'éco-entrepreneuriat peut lutter contre la crise alimentaire?
Notre manière de voir le développement durable prend soin de l'environnement naturel et humain, dans une approche qui n'exclut pas les humains, même si nous sommes dans une réserve exceptionnelle de biodiversité qu'est le bassin du Congo. Et il faut qu'on ait à l'esprit que le bassin du Congo en 2050, c'est quand même 384 millions d'habitants. Ces 384 millions d'habitants auront besoin de s'alimenter, auront besoin de satisfaire à leurs besoins énergétiques, donc auront besoin de vivre. Mais en même temps, ce n'est pas parce que ces populations auront besoin de vivre qu'on peut se permettre de raser cet écosystème d'exception. C'est pour cela qu'il faut trouver un parfait équilibre. Un parfait équilibre, même s'il n'est pas parfait, mais il faut tendre vers là, qui permet de conserver ce que le bassin du Congo a de plus cher, tout en permettant à ces humains qui y vivent de continuer à vivre tout en pensant aux générations qui suivent. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que l'entrepreneuriat classique, qui consiste juste à créer de la valeur économique à partir d'un certain nombre d'activités, n'était pas adapté pour cette partie du monde. C'est pour cela qu'il était important d'imaginer ou bien de se focaliser sur une autre forme d'entrepreneuriat qui prend soin du vivant, de tous les vivants. Et c'est cet entrepreneuriat vert qui nous semble opportun pour cette partie du monde, mais pas que, parce que nous pensons que c'est la seule option raisonnable qui puisse être soutenue, parce que c'est un entrepreneuriat qui non seulement permet de produire des biens et des services pour pouvoir répondre aux besoins des populations, mais qui fait aussi des efforts de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de limiter l'empreinte écologique, de minimiser la pollution et d'économiser les ressources si chères. Donc, déployer de façon rationnelle, l'entrepreneuriat vert pour nous favorise les pratiques d'utilisation durable des terres et des ressources en eau. Cette démarche responsable renforce non seulement la résilience et l'adaptation des systèmes alimentaires face au changement climatique, tout en préservant les ressources forestières et la biodiversité de cette partie du monde.
Et donc, si je fais le lien avec ce que vous disiez précédemment, les femmes, de par leur rôle nourricier et entrepreneurial, ont un rôle clé à jouer dans cet entrepreneuriat vert, y compris dans le bassin du Congo?
Indéniablement, indéniablement. La plupart des hommes considèrent que l'agriculture intensive des cultures de rente, telles que le cacao et l'EVA, je peux dire le coton, en monoculture, est économiquement viable. Ce qu'il est en passant. Mais les femmes, bien qu'elles voient leur conjoint le plus souvent pratiquer cette forme d'agriculture, sont engagées dans des systèmes alimentaires intégrés et diversifiés de la chaîne du vivant qui entretiennent des relations positives entre l'humain et la nature. Vous savez, quand on va dans les exploitations des femmes, on trouve toujours des arbres qui sont épargnés. On trouve toujours des lianes tirées de la forêt. Les femmes, le plus souvent, ne détruisent pas tout ce qu'elles trouvent. Parce que dans cet ensemble de ressources, elles trouvent toujours une valeur ajoutée à une espèce qu'elles ont trouvée sur place et elles y intègrent d'autres cultures. C'est donc cette richesse de la biodiversité que les femmes ont su tisser au fil des générations qui font en sorte que les femmes entretiennent des liens étroits avec l'environnement et leur rôle dans la gestion des ressources naturelles fait d'elles des agents de changement indéniables. Elles ont des connaissances, des compétences, parfois héritées des générations plus tôt, qui permettent en sorte que c'est intéressant dans des écosystèmes comme le bassin du Congo d'avoir des alliés qui prennent déjà soin de cette biodiversité quand ils pratiquent de l'agriculture.
Lionel, vous êtes ingénieur en agroéconomie de formation avant d'être spécialiste de programme à l'IFDD. En quoi l'agroéconomie et la gestion durable des ressources peuvent-elles jouer un rôle dans la promotion de l'entrepreneuriat vert chez les femmes? Qu'en est-il en particulier dans le bassin du Congo?
L'agroéconomie, on peut dire, c'est un gros mot, mais c'est un mot qui lie l'agriculture à la génération de revenus. Le plus souvent, les femmes, pourquoi on dit que les femmes sont pauvres en agriculture? Parce qu'elles mettent l'accent, par exemple, sur les cultures vivrières qui ne rapportent pas souvent suffisamment de ressources financières et qui font en sorte que bien qu'elles pratiquent énormément de l'agriculture, eh bien, que le trois quarts de leur revenu est tiré de l'agriculture et restent pauvres. Quand on regarde l'économie de l'agriculture, on se rend compte que les hommes ne sont certes pas les plus nombreux dans l'agriculture, mais c'est eux qui prennent les revenus les plus élevés parce qu'ils se positionnent dans des filières qui sont les filières les plus rentables. Alors, ce que je pense qu'il serait intéressant de faire, c'est d'accompagner les femmes dans ce qu'elles savent faire, attirer les meilleurs revenus économiques possibles dans leur pratique de l'agriculture. La pratique, en termes techniques, n'est pas remise en cause, puisque au fil du temps, on se rend compte que c'est dans la diversité que l'agriculture tire ses lettres de noblesse. Mais on ne peut pas non plus se plaire à voir les femmes rester dans la pauvreté. On ne veut pas que l'agriculture devienne un piège à pauvreté pour les femmes. C'est la raison pour laquelle on pense que l'agronomie, l'agroéconomie, peut être un atout pour les femmes pour faire en sorte qu'elles aient de meilleurs revenus, qu'elles intègrent les règles, les lois de l'économie dans leur façon de concevoir la pratique agricole. Et la première chose qu'on dit souvent, c'est qu'avant de produire, il faut vendre. Ça veut dire qu'il faut qu'elles pensent également au marché quand elles font de l'agriculture, au-delà seulement de nourrir leur famille. Je pense que c'est ce bon qualitatif qui ferait de sorte que les femmes continuent à nous nourrir tout en amenant des vies décentes.
Lionel, depuis l'IFDD, quel conseil donneriez-vous à une femme souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat vert pour contrer la crise alimentaire?
Moi, je pense que je vais donner un conseil général à toutes les femmes, hein, surtout les femmes en Afrique subsaharienne. Je voudrais leur dire, à vous les femmes, je voudrais vous dire, si vous m'écoutez, que vous êtes des femmes courageuses qui souhaitent entreprendre de façon écologique pour continuer à nourrir le monde. Je veux vous dire que je sais que dans le contexte actuel, vous n'êtes pas favorisé, que vous ne pourriez pas vous en sortir si le contexte reste le même. Mais je sais aussi que vous pourriez vous dire qu'il est peut-être mieux de faire comme les autres, de maximiser les bénéfices, que votre travail n'est pas de prendre soin des ressources naturelles qui peuvent vous paraître comme un acquis. Vous pourriez également vous dire que votre travail n'est pas non plus de vous soucier de comment vivront les humains dans 30, 100, voire 1000 ans, mais que votre travail à vous est effectivement d'avoir des revenus agricoles décents en ce moment pour vous en sortir dans ce monde où tout va à volo. Mais j'aimerais vous dire que vous avez toujours nourri efficacement le monde avec les moyens limités qui sont les vôtres. Vous avez toujours pris soin de notre planète avec responsabilité. Mais par contre, ce que vous avez moins bien fait, c'est de créer suffisamment d'emplois et de revenus pour vous libérer de vos chaînes, celles de la dépendance, de la privation, de l'insécurité, de la pauvreté multidimensionnelle. Sachez que vous avez été forte pour sortir de ce cercle vicieux, sans rien renier de vos valeurs, ni de votre façon d'habiter le monde. Continuez à nous nourrir, ne reniez pas vos valeurs, mais mettez beaucoup d'accent pour avoir des vies décentes. Vous êtes capable de le faire.
Eh bien, sur ces vibrants encouragements et ces émouvantes paroles, je vais vous remercier, Lionel Gossamnik, d'avoir été à notre micro d'Envoi Durable, d'avoir enfin accepté d'y témoigner. Merci encore pour votre présence aujourd'hui.
Laura, je voudrais vous dire merci pour votre engagement, pour vos efforts. Vous avez donné vie à Envoi Durable, c'était un rêve. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier tous les auditeurs et les auditrices de ce podcast et leur dire que pour nous, Voix Durable, c'est un peu comme un appel à la responsabilité, un appel à l'action et un appel à l'espoir. Nous espérons que ces épisodes de Voix Durable leur permettront d'imaginer qu'ils sont capables d'apporter leur pierre dans ce combat qui est un combat quotidien, qui est un combat de tous les humains. Parce que si nous tous, nous ne mettons pas la main dans la pâte, nous allons tous nous noyer, nous allons tous périr. Et nous ne le souhaitons pas pour les générations actuelles et encore moins pour celles qui nous suivent.
Merci encore Lionel. Je renvoie à tous nos auditeurs sur la page de l'Institut de la Francophonie pour le développement durable afin de découvrir tous les programmes de développement en cours, ainsi que sur le site de formation en ligne et gratuit objectif2030.org. Voilà, Voix Durable, c'est terminé. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos 17 épisodes sur le site de l'Institut de la Francophonie pour le développement durable. En attendant, c'est maintenant à moi de vous remercier. Tout d'abord, merci à vous, chères auditrices et auditeurs. Vous qui avez suivi avec fidélité ce podcast. J'espère que Voix Durable vous aura apporté des solutions, nourri vos réflexions, mais aussi donné envie de vous investir pour un futur plus vert pour notre planète. Je souhaitais également remercier les 29 femmes et 23 hommes qui se sont exprimés à notre micro, les 52 voix durables qui ont fait ce programme. Merci pour votre disponibilité, votre enthousiasme. Merci de nous avoir répondu de partout, du Congo au Québec, de Dakar à Bruxelles, depuis vos bureaux, vos plantations, faisant fi de vos problèmes de connexion et de décalage horaire. Merci pour vos points de vue, parfois étonnants, toujours passionnants, qui ont contribué à faire de Voix Durable, je l'espère, un espace d'échange, un pont entre le Nord et le Sud, un laboratoire pour le futur de notre planète. Enfin, merci à la petite équipe derrière Voix Durable, Lionel Gossamnik ainsi que l'IFDD, et mon comparse, Thibaut Garnier, sans qui la qualité sonore de ce programme n'aurait pas été la même. Merci. Je vous souhaite à tous un bel avenir, plus vert et plus durable.